Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Notre Père Céleste, nous te remercions pour la bénédiction que sont les enfants. Merci Seigneur que c'est ton esprit qui vient enseigner, soit nous, soit eux. Donc on te prie Seigneur que tu animes les animateurs justement de l'école du dimanche, que chacun soit conscient de ton esprit et les besoins aussi des enfants individuels, pour que ton message d'amour soit bien communiqué à chacun d'eux et qu'ils connaissent mieux ton écriture sainte pour qu'ils te connaissent mieux et qu'ils s'approchent de toi davantage à partir de ce qu'ils vont recevoir ce matin. Donc, on te demande ta bénédiction sur chacun des enfants et des moniteurs et monitrices au nom de Yeshua. Amen. L'homme, comme je dis toujours, une paix parfaite que je souhaite à chacun de vous. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils me connaissent pas. Je donnerai juste un petit mot, même si le pasteur m'a déjà présenté. Je suis née à Saint-Louis, aux États-Unis. Je suis américaine. Et puis, j'ai travaillé comme, je suis juive de naissance et d'origine et de culture et de tout ce que tu veux. Et puis, j'ai travaillé comme missionnaire dans un hôpital médical, évidemment, en Haïti, comme première mission. Et puis ensuite, la mission voulait que j'apprenne le français. Donc, je suis venu au Québec en janvier 1987. Et puis, donc, ça va faire 30 ans dans un mois. Et puis, ne sachant pas ce que la Sibérie était. Et puis maintenant, je sais plus. Et puis, je suis restée prise dans la neige depuis 30 ans maintenant. Donc, c'est mon histoire raccourcie, mais je suis avec les ministères Ariel. Je suis missionnaire depuis plus de 30 ans. Et puis, les ministères Ariel, comme le pasteur a dit, ont comme but double de véhiculer l'Évangile aux Juifs en premier, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Que je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu pour chaque personne qui croit. Donc, est-ce que c'est encore vrai que c'est la dynamite de Dieu pour chaque personne qui croit? Bon, c'est le même temps de verbe qui suit. C'est aussi au présent que c'est pour le Juif en premier et ensuite pour le Grec. Donc, c'est le même temps de verbe. Donc, si c'est encore cette puissance-là, c'est encore pour le Juif en premier, si nous croyons la Bible littéralement. Donc, c'est ce que les ministères Ariel font. On donne l'Évangile aux Juifs en premier, mais c'est le monde entier qui vient, parce que à Montréal, on a beaucoup de cultures. Et quoique on est dans le monde entier, pas juste à Montréal, même en Chine et en Inde, il y a des branches d'Ariel. Et puis ensuite, c'est pour faire connaître la parole de Dieu dans son contexte juif, comme le pasteur a dit, pour tous les croyants de la planète. Donc, c'est avec ce but-là que je viens ici aussi pour vous remercier pour votre soutien et vous encourager à continuer là-dedans. Il y a des découragements qui viennent de l'ennemi. Je vais vous parler d'un événement qui m'est arrivé quand on terminera le message. Et puis, ce message a été rédigé par le docteur Arnold Fruchtenbaum, qui l'a écrit et l'a inséré dans un des livres que j'ai à l'arrière, qui s'appelle « Christologie messianique », et c'est « Comment les hommes sages savaient-ils ». Et puis, c'est dans l'appendice d'un livre qui parle de chacune des prophéties de l'Ancien Testament sur la personne de Jésus lors de sa première venue. Donc, quand c'est le temps de Noël, c'est un bon moment d'en parler. Donc, on va regarder quelques passages. Je peux vous lire les versets, mais je vous encourage toujours, 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 toujours à porter vos Bibles. Donc, à l'Église, quand on parle la parole, c'est le livre qui est vivant. Donc, je vais juste vous lire un verset, c'est rapide, où on parle, parce qu'on va parler des premiers qui ont adoré Jésus. D'abord, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pour le Juif en premier. Donc, qui a entendu la nouvelle en premier? Les Juifs. C'est normal, c'est l'ordre de Dieu, c'est l'ordre divin. Donc, c'est les Juifs, les bergers juifs qui ont adoré Jésus en premier. Ensuite, il y avait des non-Juifs, les hommes sages. Donc, on voit les bergers juifs qui entendent l'annonce. Luc 2, et puis le verset 8 dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Et c'est dans un autre message, peut-être pour une autre fois, qu'on dit que Jésus est né, Jésus, son nom en hébreu, c'est Yeshua, des fois je vais dire ça. Il est né entre l'an 7 avant Jésus-Christ et 6 avant Jésus-Christ. C'est drôle à dire, mais on a bien des preuves de ça. J'ai pas le temps ce matin. On sait pas exactement quel mois ça a été fait. On fête le 25 décembre. Et puis, dans beaucoup d'émissions de radio et à télévision, ils disent, mais ça se peut pas que ça soit au mois de décembre, parce que il y aurait pas eu de berger dans les champs au mois de décembre. Mais, comme le docteur Fruchtenbaum dit, évidemment, ce sont des personnes qui se sont jamais rendues en Israël au mois de décembre, parce que c'est la saison de la pluie. Même, il y a eu un avertissement, hier, qu'il y avait tellement d'eau dans les cours d'eau parce qu'ils ont tellement eu de pluie que c'est dangereux. Les gens peuvent se faire emporter par les rivières qui débordent ce temps-ci. C'est pour ça que d'ailleurs que Jésus dit dans Matthieu 24 de prier que le jour où les gens doivent fuir Jérusalem arrive pas en hiver parce que les places où ils peuvent marcher sur la terre sèche, sur les wed, on l'appelle, c'est des lits de rivière, sont tellement remplis d'eau que ça peut les emporter. Donc, peut-être dans certaines places en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'herbes vertes en décembre, mais en Israël, il y en a plein. Donc, peut-être il est né le 25 ou peut-être il est né le 1er juillet, la fête du Canada, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose de spécial qui est arrivé dans le verset 9. Ça dit, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Et quand j'étais à Thetford Mine, au mois de septembre, je pense que c'était au mois de septembre, on voit, j'ai parlé de la gloire Shekinah. Ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la forme physique de la gloire de Dieu qui, cette fois-ci, a pris la forme d'une lumière. Et puis, là, c'était une de ces manifestations très familières. La gloire Shekinah, la gloire de Dieu, a quitté le temple le deuxième temple, dans le temps d'Ézéchiel. On le voit dans les chapitres 8 à 11 d'Ézéchiel. Et donc, c'est la première fois depuis 500 ans que la gloire apparaît au moment où les bergers l'ont vu. Donc, Dieu a utilisé la lumière, la gloire Shekinah, pour annoncer la naissance du Messie aux bergers juifs. Et il y avait un ange qui est apparu et son message était, il y avait trois messages. D'abord, n'aie pas peur. Et puis, deuxièmement, un sauveur est né. Et troisièmement, c'est pas juste n'importe quel sauveur, c'est le Messie lui-même. Et ensuite, les bergers reçoivent l'instruction d'aller chercher cet enfant-là. Et il y avait beaucoup d'enfants à Bethléem, donc comment trouver celui-là? Mais l'ange leur a donné deux indices. Verset 12, ça dit, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » C'est pas tellement miraculeux, ça demande pas trop d'inusité là-dedans. Il y a un enfant qui est emmailloté dans, du linge de bébé, n'est-ce pas? Et il est couché dans un mangeoire. OK, ça c'est une crèche, bon. Mais c'est pas du linge de bébé. C'est pas du gap pour bébé, là. où j'ai comment Jésus a été enveloppé du tout. Parce que comment dire que c'est spécial, on va le trouver. Un signe, c'est quelque chose d'inusité. Donc, est-ce que c'est un signe que vous enveloppez vos bébés, vos enfants, dans du linge de bébé?
Non.
Rien d'inhabituel. Donc, c'est pas ça un signe qu'on peut trouver un bébé dans du linge de bébé. C'est pas du linge de bébé. C'est un mot assez spécial. Ça veut dire des linceaux. C'est quelque chose qu'on utilise pour envelopper les morts, les corps décédés. Donc, parce que Jésus est venu pourquoi? Pour mourir. On va en parler tout à l'heure quand c'est le repas du Seigneur. Parce que parmi les étables ou les cavernes dans le fond où Jésus est né, il y avait des cavernes pour héberger les animaux. Quand il fait orage, il faut mettre les animaux quelque part. Donc, on entrait les animaux dans les cavernes. C'était un lieu que Dieu pourvoyait dans un sens pour abriter les animaux. Il y avait des cavernes pour ça. Il y avait aussi des cavernes qu'on utilisait pour enterrer les personnes. Avant d'enterrer une personne, on l'enveloppait de linge, certains linges. Et il y avait des cavernes où on stockait ce linge-là propre. Et puis, c'était à côté des cavernes où on enterre le monde. Donc, on n'enveloppait pas le corps à l'intérieur de la ville. On sortait le corps de la ville. Et puis ensuite, on mettait des bandelettes. Qui est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament qu'on doit détacher des bandelettes? Lazare qui a été ressuscité. Donc, c'est un paquet de morceaux, même Socrate, qui parlait grec, évidemment, et médecin, il parlait, c'est le mot pour bandage, ce linge-là. Donc, si tu peux imaginer des bandelettes qui entourent les bras et la tête et partout, là, on met les bandages, donc il y a un paquet d'affaires à attacher. C'est pas juste comme un linge de Turin, là. Ça peut pas être Jésus qui était enveloppé de ça, parce que Jésus a été enveloppé d'un paquet de bandelettes. Donc, l'affaire de Turin, là, c'est une fable. OK? C'est pas Jésus, en tout cas. Donc, une fois que la personne était toute enveloppée dans ces bandelettes, on l'amenait dans la caverne, et puis après un certain temps, on constatait qu'il restait juste des os, puis des fois, on enterrait des os dans une ossuaire, qui est une boîte qui est la longueur du fémur, qui est l'os le plus long. Jésus, il n'y avait pas de place pour Marie ou pour Myriam, c'est son nom en hébreu, dans une place normale pour ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, ils sont allés s'héberger dans une de ces grottes-là. Et puis, faut pas passer à côté du symbolisme. Jésus a été entouré de bandelettes pour enterrer le premier jour de sa vie. Donc, c'est exactement la même sorte de linge qu'on a mis autour de lui le dernier jour de sa vie terrestre. Même chose, parce qu'il est venu pour mourir. Toutes les autres personnes sur la planète sont nées pour vivre. Lui, il est né pour mourir. Deuxième indice, c'est qu'il était dans un mangeoire, donc il faut pas regarder dans une crèche, il faut pas regarder dans les maisons privées, mais il faut regarder dans ces grottes-là. C'était pas comme un genre de grange, comme on voit souvent, là, un genre de grange à côté d'une maison, parce qu'il y a beaucoup de fermes, mettons, autour d'ici, puis c'est pas une grange, c'était une grotte. Et puis, donc, après ça, il y avait d'autres anges qui se sont apparus, et en passant, ils n'ont pas chanté. Écoutez, les anges, okay, non. Les anges qui chantent, non. Les anges proclamaient, verset 14, ça dit, ils ont dit deux choses, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, à cause des deux indices assez farfelus, spéciales, un enfant qui est entouré de bandelettes pour un mort, dans une place où les animaux mangent, dans une grotte comme ça, là, c'était assez facile à trouver. Et comment est-ce que les bergers savaient où trouver les grottes? Parce que c'est des bergers qui, quand il y avait leur troupeau à abriter, ils allaient là. Donc, ils savaient exactement dans quel coin étaient les grottes pour les animaux, parce qu'ils allaient régulièrement pendant la saison de pluie, entre autres. Donc là, on voit que ils ont dit à Joseph et à Myriam tout ce qu'ils avaient vu, et elle l'a tout gardé dans son cœur, hein. Et on voit dans en Luc, ça dit Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et plusieurs années plus tard, elle a tout raconté à notre cher médecin historien Luc, qui est juif et qui a écrit ce conte. Et ça, c'est alors le premier incident, la première fois que le Messie a eu de l'adoration des Juifs. Ça dit en verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Donc, ils ont loué Dieu d'avoir pourvu le Messie. Et puis là, on va regarder les premiers gentils qui ont adoré Jésus. Donc, tournez avec moi si vous avez une Bible avec vous, je vous encourage, ou même votre téléphone si vous n'avez pas d'autre chose, on va regarder tout un bout. En Matthieu 2, parce que Luc 2 et Matthieu 2 contiennent les récits de la naissance de Jésus les plus détaillés. Donc là, on va regarder Matthieu 2. Je vais lire plusieurs versets. C'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » C'est quel prophète en passant? C'est Michée. « Et toi, Bethléem, roi de terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Donc, c'est clair, c'est où? Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, puis une grotte, hein, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, Myriam, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, ça, c'est le record de la visite des mages de l'Orient, qui a été guidée par une étoile. Il y a des personnes qui disent, « Ah, l'astrologie, c'est valide pour aujourd'hui. » Il y en a qui essaient même de développer une doctrine d'astrologie biblique. Aïe, aïe. Et quand on voit les crèches qu'on a peut-être chez nous, ou peut-être j'en ai déjà eu, on voit les bergers et les mages ensemble pour adorer le Messie à sa naissance. Mais l'histoire des bergers et des mages, ces deux histoires-là sont séparées par à peu près 2 ans de temps. Ils n'étaient pas là en même temps. Je vous dis pas de détruire vos crèches ou quoi que ce soit, mais vous pouvez remettre votre crèche en pensant à ça. Parce que les bergers sont arrivés très proches de presque quand Jésus est né. Mais les rois, les mages ont vu l'étoile et ça leur a pris du temps pour y aller parce qu'ils étaient dans une maison et pas dans une grotte, pas dans une crèche. Hein? Et quand c'est les mages et les bergers se sont jamais rencontrés. Et c'est clair à Matthieu qu'il avait à peu près 2 ans, parce que le verset 11, ça dit, « Ils virent le petit enfant. » Et le mot pour petit enfant est grec, ça veut dire un genre de bambin qui marche, maladroitement, mais qui marche. C'est le mot « paidos » en grec. Donc, c'est pas du tout le petit Jésus, le bébé là. C'est plus le bébé, non. C'est un enfant qui gambadait, qui était capable de marcher. Et aussi, à cause d'un hymne en anglais, on peut penser qu'il y avait 3, et c'était des rois mages. Est-ce qu'on a vu le mot « roi » là-dedans? Pas du tout, non. On sait pas combien, on sait que c'était au pluriel. Il y en avait des mages, donc 2 ou plus. Mais ça dit aussi, peut-être il y en avait 3, parce qu'il y avait 3 sortes de cadeaux. Donc, peut-être qu'il y avait chacun apportait un cadeau différent. Il n'y a rien qui dit ça. Peut-être qu'il y avait 20, peut-être qu'il y avait 200 mages. Ça dit que toute la ville de Jérusalem était à l'envers. Est-ce que toute la ville de Jérusalem aurait été à l'envers pour 2 personnes qui arrivent? Pas du tout. Il y avait plusieurs. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être plusieurs ont apporté de l'or. Moi, j'apporterais de l'argent. Si j'étais, ou de l'or, si j'étais une personne qui voulait offrir un beau cadeau de valeur, on va regarder chacun des cadeaux tantôt. Donc, le nombre de cadeaux ne prouve pas qu'il y en avait juste 3, et ça dit pas que c'était des rois. Le mot en grec, c'est magoi, qui veut dire les hommes sages, ou, tenez-vous bien, astrologues. Astrologues, oh my, est-ce que c'est des astrologues? Je vais en parler tantôt. Bon, tout ce qu'on sait en Matthieu, c'est qu'il y a un nombre inconnu d'astrologues qui arrivent de l'Orient. L'Orient, ici, c'est quoi? Terre-Neuve? Est-ce que c'est à l'Orient du Québec? C'est à l'Orient d'Israël? Quel pays est à l'est d'Israël? C'est toujours la région de la Mésopotamie. Quand on voit que ça vient de l'Est, c'est toujours à l'Est d'Israël, qui est le centre du monde, selon le livre d'Ézéchiel. Donc, même si on met pas Israël au centre d'une carte du monde, dans la carte divine, Israël est au centre. Donc, il y avait des gens de la Mésopotamie. Un autre mot que peut-être vous connaissez mieux, c'est Babylone. Babylone. Il y avait 2 astrologues minimum de Babylone, peut-être 2000. Astrologue de Babylone, on ne sait pas. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent tout d'un coup à Jérusalem et dire « Où est celui qui est né roi des Juifs? » Est-ce que c'est par l'astrologie qu'ils ont su ça? Comment ça qu'ils étaient au courant de la naissance d'un roi juif? Ils font pas attention. Et pourquoi est-ce que les Babyloniens auraient voulu adorer un roi juif et d'aller jusque-là? Pourquoi vouloir adorer ce roi en particulier? Comment les hommes sages savaient-ils? Bon, on va regarder le message et puis on va le regarder sérieusement, point par point, et on va voir si on a vraiment appris tout ça par l'astrologie ou s'il y a quelque chose d'autre qui se passe. La règle d'interprétation en or ou doré ou principale est celle-ci. Lorsque le sens le plus évident des Écritures est censé, ne recherchez aucun autre sens. Ça a du bon sens, hein? Je répète. Lorsque le sens le plus évident des Écritures est censé, ne recherchez aucun autre sens. Par conséquent, chaque mot doit être pris dans son sens le plus élémentaire, le plus ordinaire, le plus usuel et le plus littéral, à moins que les faits rapportés par le contexte immédiat, étudiés à la lumière des passages affiliés et des vérités fondamentales, indiquent clairement le contraire. Donc, on prend la Bible telle quelle. on n'essaie pas de tordre ça à bretelle pour le faire dire autre chose. On le prend tel que c'est écrit. Donc, on va regarder l'étoile en premier. C'est pas une étoile ordinaire du tout. D'abord, on parle de son étoile. Il y a un genre de position. C'est l'étoile de Jésus. Donc, c'est l'étoile du roi des Juifs. Donc, c'est pas n'importe quelle étoile. Et c'est une étoile qui apparaît et ensuite ça disparaît. Ça apparaît lors de sa naissance pour que les bergers le trouvent. Puis pendant 2 ans, on n'en parle pas. Et là, ça réapparaît pour guider les rois mages. Les mages. C'est facile, hein? Et puis, les mages l'ont vu quand il est né aussi. Ensuite, cette étoile bouge de l'est en ouest parce que ils sont partis de l'est, ces astrologues, et ils étaient dans l'est, puis ils voyagent vers l'ouest, donc l'étoile bouge. Ensuite, l'étoile bouge de nord en sud, parce que Jérusalem, c'est au nord de Bethléem. Ils se rendent à Jérusalem, c'est le roi des Juifs, ça doit être à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais non, ils se font dire que non, c'est au sud, c'est à Bethléem. Donc, l'étoile maintenant bouge nord en sud. Ensuite, cette étoile est suspendue au-dessus d'une seule maison juive. Et je vous dis, une seule maison juive, là, c'est la grandeur de ça, là. Pas une grosse affaire. S'il y avait une étoile qui était juste au-dessus d'une seule maison ou d'une seule ville, toute la planète Terre exploserait, n'est-ce pas? Si une étoile vient à combien de milliers de kilomètres de distance de la Terre, on s'en fait, là. Tu sais? Donc, imagine que c'est juste au-dessus d'une petite maison, là. Impossible. Impossible. Donc, c'est évident que c'est pas une étoile littérale. Donc, même si on prend l'écriture littéralement, il faut chercher plus loin. Comme j'ai dit, ces 5 choses nous montrent que c'est pas une étoile ordinaire, tu sais, l'idée d'apparaître, disparaître, est, ouest, nord, sud, tout ça, là. Donc, il doit être quelque chose, mais c'est quoi? Mais le mot grec veut dire radiance ou brillance. C'est anatolé, c'est le mot en grec, et ça veut dire une brillance, une lumière. Quand c'est une lumière, là, on a la gloire Shekinah, et pas juste une étoile d'astrologue, là, pas du tout. Donc, la gloire Shekinah encore, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu. Pensez au jour de la Pentecôte, quand des langues de feu se sont posées sur la tête des 12 apôtres. C'est visible. Ou le mont Sinaï, qui était en feu, et puis il y avait des nuages. Ça, c'est une autre façon que la gloire Shekinah se manifeste. Il y a toute une étude là-dessus, je l'ai pas avec moi, mais ça existe si vous voulez lire là-dessus. Donc, ça, c'est un signal que le roi des Juifs, le Messie, est né. Donc, une fois qu'on sait que c'était pas une vraie étoile, une constellation, les gens cherchent partout là à savoir, ça répond pas à toutes les questions. Comment est-ce que ces mages étaient au courant de ce qui arrive par rapport à la naissance d'un roi juif? Ils vivent à Babylone, tu sais. Pourquoi? Comment ils pourraient être au courant des naissances des rois juifs? Pourquoi ils voudraient venir? Donc, du compte du Nouveau Testament, tout ce qu'on peut déduire, que quelque part, ils étaient au courant, ils ont vu une brillance, et puis là, ils ont attendu 2 ans. Ça prend pas 2 ans de temps, à peu près 6 semaines pour se rendre de Babylone en Israël. Et puis, donc, ils ont traîné la patte, tu sais, ils ont pris du temps, et après 2 ans, ils viennent. Tout ce qu'on sait. Enfin, il faut regarder l'Ancien Testament pour savoir la réponse à cette question-là. Parce que toute la Bible est cousue ensemble, toute fit, toute. C'est un livre. Pourquoi il y a une division, parce qu'il y a eu 400 ans où Dieu n'a pas donné un livre, mais il était pas statique pendant ces 400 ans. Il a bougé comment? J'en ai parlé déjà à cette église que sans la fête de la dédicace de Hanouka, il n'y aurait pas de Noël. Ça, c'est arrivé entre les deux testaments. Donc, tournez avec moi, s'il vous plaît, en Daniel. C'est le 4e des prophètes majeurs. C'est pas difficile à trouver Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel dans les prophètes majeurs. Si vous avez une Bible juive que vous avez pas sûrement, vous seriez obligé de garder en arrière complètement de vos Bibles parce qu'ils comptent pas Daniel comme étant un prophète. Et surtout pour ce passage-là, Daniel 9, versets 24 à 27. Et là, j'entrerai pas dans les 70 septaines de Daniel. Un septaine, c'est le vrai mot et pas semaine, mais on va accepter que ça dit semaine. Et il y a toute une étude sur le timing de la venue de Jésus. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Verset 24 de Daniel 9, « Sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, c'est le Messie, il y a sept semaines ou sept septaines et 72 septaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, loin sera retranché, va mourir. Il n'y aura pas de successeur. Où est-ce qu'on a écrit le livre de Daniel? En Israël? Babylone. Donc, ça a été écrit en babylonien. En araméen, c'est un mot difficile pour moi à dire, c'est la langue des Babyloniens. Donc, à la ville de Babylone, le livre de Daniel a été écrit et ça prophétise l'année de quand le Messie devait venir. Et Babylone est souvent associée avec des astrologues. Si vous regardez d'autres chapitres en Daniel, il y en a au moins 5 chapitres en Daniel qui parlent d'astrologues. Et le roi, à l'époque, Nebuchadnezzar, avait pas beaucoup de discernement spirituel. Il s'est pas rendu compte que la capacité de Daniel venait pas des étoiles, mais du Dieu du ciel, celui qui a créé les étoiles. Mais quand même, Nebuchadnezzar a donné une promotion à Daniel pour qu'il soit le chef, l'astrologue en chef. Et dans cet entourage, Daniel a écrit le livre de Daniel. Donc, les astrologues autour de lui ont eu connaissance et pouvaient lire le livre de Daniel. Et en chapitre 2, ça dit qu'il y avait un incident où Daniel a sauvé la vie de tous les astrologues. Donc, ils ont mis Daniel comme leur héros. Et puis, Daniel leur a sauvé la vie. Donc, à cause de Daniel, l'école d'astrologie babylonienne a été sauvée. Et puis, ça dit, je vais juste vous lire, en chapitre 2, 48, ça dit, « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et de riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Donc, il leur a sauvé la vie et il était le chef. Donc, plusieurs probablement de ces astrologues se sont détournés de leur adoration des étoiles pour adorer le Créateur des étoiles, le Dieu d'Israël. Et peut-être vous savez pas, mais dans la culture babylonienne, ils aimaient donc garder les records. Ils écrivaient les records, c'était des fanatiques de histoire. Ils aimaient beaucoup l'histoire, ils les gardaient dans les, je sais pas dans quoi là, peut-être des pots comme les rouleaux de la mer morte, mais ils gardaient les livres d'histoire très soigneusement. Donc, ils ont gardé le livre de Daniel, certainement. Donc, il y avait une lignée d'astrologues babyloniens que de génération en génération ont probablement adoré le vrai roi et ayant la prophétie de Daniel, avaient hâte de voir ce roi des Juifs. Donc, ils savaient quand, mais qu'est-ce qui leur dit qu'il va avoir une étoile mélangée avec tout ça, là? L'étoile n'est pas là. Comment ils savent que ça va être annoncé par une étoile? C'est pas dans ce passage-là. Ah, mais il faut retourner plus en arrière, aux prophéties d'un autre Babylonien, de Balaam. tournez avec moi au chapitre 24 de Nombre. Nombre, c'est dans la Torah, c'est dans les cinq premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Le pasteur Jacques-Isaac Gabizon vient de commencer il y a une semaine de faire l'exégèse verset par verset sur le livre de Nombre. C'est très excitant, je vous dis. Et si vous avez Facebook et si vous comprenez l'anglais, ça c'est deux si, vous pouvez embarquer le samedi matin comme vous allez faire le 24 décembre. Vous allez adorer le 24 matin. Le matin, ou mettons le 31 décembre, vous allez être réunis ici le soir, mais vous pouvez écouter en direct et l'adoration et le message à partir de Montréal. Maintenant, si vous allez sur Facebook, où ça dit, et vous tapez Beth Ariel Congrégation, vous allez arriver en direct là-dessus. Là. Et aussi, c'est stocké sur la page Facebook après que c'est fini la transmission en direct. Donc, je vous invite de vous y rendre. Si vous voulez écouter l'adoration en français, en anglais et en hébreu, c'est là à tous les samedis matins. Donc, Balaam était engagé par le roi de Moab pour maudire les Juifs. Et il faut lire comme trois chapitres là-dedans, on n'a pas le temps de ça. Mais l'histoire commence en Nombre 22, ça continue en 23 et ça finit en 24. Et quatre fois, Balaam a essayé de maudire les Juifs. Mais chaque fois, Dieu a pris le contrôle de sa bouche. Et au lieu de maudire les Juifs, il les a bénis. Et en bénissant les Juifs, il a sorti quatre prophéties messianiques clés. Une de ces prophéties, je vous demande de tourner au chapitre 24 de Nombre, le verset 17. Et encore là, toute cette étude est dans le livre dont je vous ai parlé en arrière, Christologie messianique. Donc, Nombre 24, 17. « Je le vois, Balaam dit, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre, ça c'est un roi, s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » Donc, Balaam, malgré le fait qu'il voulait maudire Israël, a été obligé, forcé par Dieu, de prophétiser du Messie juif qui est attaché à l'apparence d'une étoile. Évidemment, c'est pas une étoile littérale, parce que ça dit, on parle aussi d'un sceptre, et l'étoile et sceptre, c'est la même personne. Parce que le mot sceptre, c'est pour désigner la royauté ou quelqu'un qui est roi. Et donc, cette étoile est un roi. Et quelle était l'occupation, l'emploi de Balaam? Astrologue. Même plus important, c'est qu'il venait de Béor, sur les rives de le fleuve Euphrate. En Babylone, un autre Babylonien qui parle babylonien, qui parle de ses expériences ou qui écrit ses expériences en babylonien, en araméen, et avec un peuple qui aime stocker les histoires. Donc, on a une double connexion avec les Babyloniens. Il y a le livre de Daniel qui a dit combien d'années arriveraient à une fois qu'on a décrété que Jérusalem sera rebâtie. On peut les compter, il y a des livres entiers écrits là-dessus. Et il y a la prophétie de Balaam qui concerne cette étoile. Donc, Balaam faisait partie de l'école d'astrologie babylonienne. Donc, Balaam a parlé environ 1400 avant Jésus-Christ. Daniel a reçu sa promotion vers 600 avant Jésus-Christ. Donc, la révélation d'une étoile par rapport à la naissance du Messie est venue par un astrologue babylonien qui a sûrement donné cette information-là à ses collègues, parce que quand même c'est assez particulier. Tu essaies de maudire et tu bénis. Hein, c'est quelque chose d'inusité. Même le pasteur tantôt a parlé de « puisque vous bénissez Israël, parce que vous soutenez, et si vous soutenez le ministère juif, vous allez être bénis. » Donc, ça, c'est l'alliance abrahamique. j'ai quelque chose sur les alliances en arrière aussi. Donc, le livre de Daniel a dit quel moment cette étoile apparaîtrait. Donc, comment est-ce que les hommes sages savaient-ils? Pas en examinant les étoiles, en genre de fausse science d'astrologie, mais par la révélation de Dieu, comme c'est contenu dans les Écritures, dans la Bible, par les prophéties de Balaam, par les prophéties de Daniel. Donc, évidemment, il n'y a pas de validité dans l'astrologie du tout pour nous. Et les hommes sages ont donné à Yeshua trois sortes de cadeaux. Hein. L'or, c'est le symbole de royauté, ou quelqu'un qui est roi, et ça met l'emphase sur le fait que Jésus est un roi. Ensuite, ça parle de encens. Et là, j'ai fait des recherches assez élaborées hier soir. Parce que, en anglais, le mot, c'est frankincense. Et puis, franc, encens. Ça vient du vieux français. Franc, encens. Et ça a été raccourci à juste encens. Parce que n'importe quel encens, et tu peux brûler l'encens. Mais ça, c'est une sorte d'encens particulier. Et, c'est spécial. Nous avons notre ami, Mirella, qui est au Liban, et un autre mot pour cet encens-là, c'est au Liban, parce qu'on peut le trouver au Liban. Intéressant, n'est-ce pas? Et puis, c'est une résine qui valait de l'or. Maintenant, on le trouve principalement en Somalie, et c'est raffiné et c'est rendu en huile essentielle très coûteuse en France de nos jours. Donc, frankincense, ou le franc encens d'une haute qualité, c'est un symbole de divinité. Parce que on prenait de ce franc encens pour fabriquer l'encens qu'on mettait sur l'autel d'encens dans le lieu saint. Et cette fumée entrait dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Donc, si on met, parce que, comment décrire? Si je mets, non, ça, c'est à peu près la grandeur de l'autel de l'encens. Je l'ai déjà vu, ce qu'on va utiliser dans le troisième temple, un temple qui va être maudit. C'est à peu près de cette grandeur-là, si tu vas en Jérusalem, l'autel d'encens qu'on va mettre dans le troisième temple. Et puis, mettons que ça, c'est le rideau devant le lieu très saint. Ça, c'est dans le lieu saint et c'est placé juste devant le rideau qui donne passage au lieu très saint. Donc, si je brûlais de l'encens ici, juste devant le rideau, l'odeur arriverait de l'autre côté du rideau, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement ce qui arrivait parce que la présence de Dieu était derrière ce rideau-là, dans le lieu très saint. La gloire Shekinah résidait là. Ça ne résidera pas dans le troisième temple maudit. On utilisait le franc encens pour le mélange qu'on mettait sur l'autel d'encens à l'époque du tabernacle et du temple après ça. Et la myrrhe est associée avec la mort et quand on va embaumer quelqu'un, donc c'est associé avec la mort. Donc, en donnant ces dons-là à la famille de Joseph et Marie et Jésus, les hommes sages ont donné le revenu à la famille pour pouvoir s'échapper à la persécution qui allait arriver quand Hérode commençait à tuer tous les enfants de 2 ans, parce qu'il savait que ça faisait 2 ans que la lumière, l'étoile est apparue la première fois. Donc, on tuait tous les bébés et ils ont pu s'évader en Égypte. Donc, ils avaient de l'argent parce que, comme je dis, le franc encens valait de l'or. Et ensuite, il y avait de l'or et donc ils avaient beaucoup de stocks qui valaient beaucoup pour vendre, pour vivre toutes les années qu'ils sont restés là, environ 2 ans, et pour financer leur voyage de retour à Nazareth après la mort de Hérode le Grand. Donc, ça c'est le message ce matin sur comment les hommes sages savaient-ils. J'espère que ça va ajouter à votre compréhension des Écritures. Je veux juste mentionner rapidement, parce qu'on va prendre le repas du Seigneur, il y a de la littérature à l'Orient. Si vous n'avez pas remarqué la montée de l'antisémitisme dans le monde, c'est parce que vous prenez vos sources de nouvelles peut-être de Radio-Canada, mais même à l'Université de Toronto, on voit des croix gammées. Maintenant, c'est de pire en pire. Je peux parler pendant des heures de temps comment c'est rendu l'antisémitisme qui est satanique. Donc, si vous voulez en apprendre plus, j'ai quelques dépliants sur la montée de l'antisémitisme qu'on a écrit il y a 12 ans, et c'est jamais plus réel qu'aujourd'hui en 2016. Peut-être les gens se posent la question, la paix dans le monde viendra-t-elle un jour? On peut regarder là-dedans, que disent les prophètes hébreux. Ça, c'est gratuit. Il y a aussi une lettre de nouvelles qui parle de comment les fêtes d'Israël reflètent la première et la deuxième venue de Jésus. Et pour ceux qui ont jamais eu l'occasion, c'est très rare que j'ai une copie des cartes. Si vous dites c'est où la Mésopotamie, je sais même pas comment le dire, mais vous pouvez regarder dans ce livre où on a les pays, comment on les nommait avant, comme Moab et Edom et Ammon et tout ça. Et là, on superpose par-dessus une feuille qui donne quelles sont les frontières aujourd'hui du Liban, de la Syrie et tout ça là. Donc, on peut voir et les places de l'Ancien et le Nouveau Testament et où ils sont aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, c'est quoi la Syrie, puis c'est où maintenant? J'ai une copie qui me reste de ça. Et comme le pasteur a dit, comment vous pouvez me soutenir financièrement, j'en ai grandement besoin. Par exemple, je sais que vous savez c'est quoi la persécution qui est due à l'ennemi. J'ai donné une conférence en français à Sainte-Anne de Madawaska, au Nouveau-Brunswick. C'était le 22 octobre, je crois. Et puis, deux heures sur satanologie. Ensuite, on a dîné. Ensuite, j'ai donné 2 heures sur la guerre spirituelle. J'arrive à mon auto, et moi, je crois pas à la coïncidence. J'arrive à mon auto, je commence à rouler un petit peu dans le stationnement de l'église. Puis, il y a de quoi qui tourne par rond avec mon pneu. Donc, je sors, je prends la pression. La pression est bonne, 32 livres. J'embarque sur l'autoroute devant un monsieur, Michel Mazerolle. Et puis, là, j'ai commencé à sentir ça tirait. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai klaxonné pour qu'il arrête, puis il m'a pas entendu. Je me suis accoté. Et là, j'ai arrêté. J'ai repris la pression. Le pneu avait l'air correct. J'ai pas regardé soigneusement. Et là, j'ai continué à rouler sur l'autoroute parce que j'étais au beau milieu de nulle part. Et là, ça tirait beaucoup. Là, je sors de l'autoroute à une halte routière et là, j'examine. Et là, je vois une série d'environ 10 trous dans mon pneu, dans le caoutchouc, et je voyais à travers l'acier. Ça brillait dans les trous. J'aurais dû faire des diapos pour vous montrer, là, mais c'est sur mon téléphone ou mon iPad, je peux vous montrer. Je dis, que c'est ça? Et là, je dis, j'appelle-tu le club automobile? Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé un ami au Maine qui a dit, ben, t'as rendez-vous au garage, parce que je vais en garage chrétien au Maine maintenant, parce que c'est des croyants. Dans 3 jours, roule lentement. Et, tu sais, tu vas toffer. Je devais parler à Edmundston dans une autre église, ce soir, le lendemain, en français, encore là, le matin et le soir. Et puis, mais je sortais j'ai embarqué sur la bretelle qui quittait la halte routière. Et là, j'ai entendu flip, 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 flip. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Là, je sors de l'auto et je vois le fibre de verre qui sort des pneus, des trous dans le pneu. Donc, la bande a explosé à l'intérieur du pneu. S'il y avait encore 32 livres de pression, ça aurait pu exploser en dessous de moi parce que c'était du côté conducteur. Mon auto était plein à craquer, comme tu vas voir si tu sors dehors, peut-être tu l'as vu en entrant. Et puis, ça aurait été catastrophique, je pense. Le rime aurait été fini si ça avait explosé là. Là, j'ai appelé le club automobile et puis... J'attends. Puis d'habitude, à Montréal, il y a un gros camion blanc avec des gyrophares, tout ça là qui arrive. Après, 15-20 minutes après, là, il y a un petit Ford Escort qui arrive avec 2 petits gars en calotte et jeans déchirés, là, à 8 places à peu près. Et ils disent, Madame, avez-vous besoin d'aide? J'ai dit, non, ça va. Le club automobile s'en vient. Il dit, nous sommes le club automobile. J'ai dit, avez-vous de la preuve? Et puis, j'avais dit que peut-être je pourrais avoir besoin d'un peu d'essence. Donc, ils ont soulevé leur canne d'essence. Ils ont montré du doigt le bon pneu qui a été à changer. J'ai dit, ah, c'est vraiment eux autres. OK. Quand on est dans la brousse, là, il faut s'attendre à n'importe quoi. Donc, tout d'un coup, j'avais à acheter 4 pneus d'hiver. Donc, je suis contente de rouler sur 4 nouveaux pneus, mais ça coûte des sous. Donc, si vous avez à cœur de me soutenir, mon directeur me dit que je dois doubler mon soutien actuel parce que dans 20 ans, je ne vais pas pouvoir voyager comme je fais ou 10 ans parce que je vis uniquement des dons que vous donnez. J'ai pas de revenus, j'ai pas de salaire, j'ai rien. J'ai le Seigneur Jésus-Christ qui pourvoit comme il a promis de pourvoir. Donc, si vous voulez faire un don aujourd'hui, vous pouvez voir Marie-Lise ou Sarah, on va vous expliquer comment faire. Si vous voulez utiliser un coupon comme ça, qui indique votre adresse, c'est une autre façon. Il y a une boîte bleue en arrière, mais l'Église envoie des dons régulièrement, ou quand je viens au moins. Donc, si vous l'envoyez par la poste, il faut écrire Jackie. Si vous le donnez aujourd'hui, ça va directement à moi. Et puis, donc, je vous dis merci pour votre soutien et tout. Je me prépare à au mois de janvier, un nouveau voyage. La fin de janvier, je retourne à Québec pour terminer l'Épître aux Hébreux. Et ensuite, je pense que je vais faire une série sur la vie de Jésus à Québec. Donc, le 7 janvier, si ça vous intéresse de venir écouter chapitres 12 et 13 de l'Épître aux Hébreux, vous êtes les bienvenus. Et puis, le 24 janvier, je vais partir pour un nouvel État, le Nouveau-Mexique. Je suis invitée d'aller là faire des conférences pour femmes. Ensuite, je vais aller en auto en Arizona vers le 6 février, je crois. Et je pense que c'est le 18 février. Tout là, je ne le crois pas. Là. Je le dis à haute voix, mais il faut le croire parce qu'il y a des choses qui s'organisent. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et le commentaire rabbinique ajoute quelque chose. Il dit, à cause de leur péché, c'est comme si on parle au Messie, ta langue va coller au palais de ta bouche. À cause de leur péché. Dans le fond, c'est à cause de nos péchés. Et on pose une question au Messie, es-tu prête, vous, de bonne volonté, d'endurer ça? Et le Messie répond et dit qu'il est d'accord. Ça, c'est dans les écrits rabbiniques, c'est pas les Écritures. Dans une autre partie, ça parle du corps du Messie. On va prendre le symbole du corps du Messie. Et le commentaire rabbinique dit, le corps du Messie est courbé et tout comme courbé, craqué. Il va crier, il va pleurer, et sa voix va monter jusqu'au ciel des cieux, ciel des cieux. Et c'est à ce moment-là, nous croyons qu'on voit que le Messie, Jésus dit, ma force se dessèche comme l'argile. Dans un autre commentaire rabbinique, ça dit, pour Israël, tu as vécu l'angoisse, le mépris et la moquerie parmi toutes les nations du monde. Ça, c'est le verset 7 et 8 de Psaume 22, c'est un commentaire sur ça. Aussi sur Michée 7, 8. T'es resté à la noirceur et tes yeux ont pas vu de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? C'était tout noir. Et ton corps était sec comme un morceau de bois. Donc, même les sages rabbiniques juifs ont reconnu la puissance de la prophétie. Personne peut dire dans le judaïsme que le psaume 22, c'est pas un psaume messianique. N'est-ce pas intéressant que ce livre a été trouvé juste au 16e siècle et juste avant le retour des Juifs à la terre d'Israël et qui a commencé où nous sommes aujourd'hui, les temps de la fin? Comme un autre appel pour voir que Jésus est leur Messie. Comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Il y a une chose importante. Combien le péché est terrible. Parce que tout ça est arrivé à Jésus à cause de péché, à cause de nos péchés. Est-ce que vous voyez l'impact du péché? Parce que Dieu a mis à mort son propre Fils. Comment est-ce qu'il peut pardonner ceux qui refusent le salut? Pas. Beaucoup comptent sur la bonté de Dieu. C'est un bon Dieu. Il va me pardonner. Mais eux, ils refusent de considérer son Fils. Ça marchera pas. La croix dit non. Il n'y a rien qui peut nous sauver, sauf le Fils de Dieu. Vous voyez comment le péché a séparé le Père du Fils? Vous voyez comment ça peut nous séparer de Dieu? D'autant plus, si le péché a séparé le Fils du Père, ça va séparer tout le monde, n'importe qui. C'est ça le message. Viens voir ce que Jésus a fait pour vous. On va finir avec un autre passage d'où c'est tiré. Donc, tournez avec moi dans le Nouveau Testament à Matthieu 27. C'est là où Jacques enseignait quand il a... on voit que il a cité Jésus, le psaume 22, verset 1. Donc, Matthieu 27, verset 45 à 50. Matthieu 27, 45. Depuis la sixième heure, c'est à midi, jusqu'à la neuvième, c'est 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, ça c'était en hébreu. Lama sabachthani, ça c'est en araméen. Il a mélangé les langues. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé en roseau, il lui donna à boire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand Jésus a parlé ces mots du psaume 22, Eli, Eli, lama sabachthani, tout de suite, quelqu'un a pris du vinaigre, l'a mis sur un roseau, lui a donné à boire. C'est quoi la presse? C'est quoi l'empressement? Pourquoi courir vers ça? Regardez les autres qui l'ont tenté à descendre de la croix, hein, verset 49, quand il dit... Les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » C'est ça que j'ai sauté tantôt. Est-ce qu'Élie va le sauver? Il y avait un autre attentat, comme combien d'autres, pour que Jésus ne meure pas sur la croix. Donc, ils ont dit, « Peut-être il va être sauvé. Peut-être quelqu'un va le sauver. Peut-être il va pas vraiment mourir sur la croix pour nous. » Et ça, c'est un événement qui est arrivé juste avant qu'il meure et qu'il mette fin à tout le péché. Rapidement, on lui a offert du vin. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? La veille, je prendrai plus de vin. Jusqu'à ce que je boive de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu, dans l'ère messianique qui s'en vient après la tribulation et après l'enlèvement. Il y a quelque chose d'important. Je vais vous lire quelque chose d'autre, ou si vous voulez tourner avec moi à Jean 19, ça donne quelques détails d'autres. Ça dit en Jean 19, 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean nous dit que Yeshua a pris le vin, a pris le vinaigre. C'est quoi ce mot? Ayant pris, ça veut dire de prendre, saisir. C'est pas utilisé pour boire en passant, du tout, parce que Jésus a pas bu. Comme dans les dictionnaires théologiques, ça dit que c'est un mot qui a été utilisé en cours. C'est un terme légal. c'est quand quelqu'un reçoit le jugement. C'est pas pour boire. C'est quand quelqu'un reçoit, accepte un jugement. Donc, il a pris le jugement. On sait que chaque soir, quand on a fait un sacrifice, toujours le matin, à 9 heures le matin, quand est-ce que Jésus a été crucifié? À 9 heures le matin. Le dernier sacrifice du jour était à 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce sacrifice à 3 heures de l'après-midi, quand Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi? C'est parce qu'on donnait un genre de libation, un sacrifice de vin qu'on aspergeait l'agneau. Parce qu'on offrait un agneau tôt le matin, à 9 heures et à 3 heures. C'était le début et la fin. L'alpha, l'oméga. Deux fois par jour, on offrait un agneau entier. Et un soir, on mettait du vin, probablement comme du vin aigre, comme du vinaigre qu'on a versé sur l'agneau. Jésus a clôturé ce sacrifice final. Et c'est là que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand il avait reçu ce vinaigre, ce genre de vin. Donc, j'invite Pasteur Jean-Sébastien de venir nous conduire dans la prise des aliments.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.